Canalem, on aime l'été.
Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter Aime l'été, mais je ne suis pas toute seule, je suis avec
Christiane Campagna.
Alors aujourd'hui, Christiane va nous amener sur des routes accessibles et aujourd'hui, ce sera le Fort Chambly.
Oui, et comme à chaque semaine, Françoise Beaulieu attirera notre attention sur un personnage extraordinaire. Aujourd'hui, le bien nommé Francis Donde... Fabrice, Don de Dieu.
Et puis, j'aurai pour vous une chronique, une petite chronique, quelque chose qui m'a attiré l'oreille. Je vous dis tout de suite, attention aux titres des articles qui peuvent en cacher d'autres.
Annick Filion va nous présenter un instrument rare, le Célestat, et une joueuse de Célestat, Jennifer Bourdage.
Et puis Christiane, vous allez revenir en seconde partie pour nous présenter une chronique de musique traditionnelle.
Oui, en compagnie de la musicienne Catherine Planet.
Et puis enfin, L'insolite destin de Julia Verdi, écrit par Geneviève Lefebvre, c'est un livre que viendra nous présenter Yannick Olassa.
La chanson Piscine.
On est en plein mois de l'archéologie et dans le tumulte du retour en classe, on vous propose de prendre une pause week-end pour aller faire un tour au Fort Chambly, un des lieux historiques de Parc Canada au Québec, qui est un des rares qui est un vestige de l'époque de la Nouvelle-France. Il y en a beaucoup qui sont des vestiges de la période anglaise. Et pour ce faire, on va aller parler tout de suite à Christian Fortin, chef d'équipe expérience du visiteur. Bonjour, Monsieur Fortin.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Alors, tout d'abord, on envoie les gens au Fort Chambly, on va leur proposer des activités, mais dans un premier temps, quelle est l'histoire de ce lieu historique?
Mais en fait, c'est un site majeur, je pourrais dire. Donc, c'est un site qui fait partie du réseau Parc Canada. Donc, l'histoire de Fort Chambly, c'est le régiment Carignan-Salière, donc des hommes qui sont envoyés par Louis XIV à la fin du 17e siècle pour donc venir construire un fort afin de défendre la Nouvelle-France. Donc, c'est un fort qui était en bois au départ. Et qui, il y aura trois forts en bois et un fort en pierre. Ce qu'on voit actuellement quand on vient sur le site du Fort Chambly, c'est un magnifique parc avec un fort en pierre qui date de 1711. Donc là, on est vraiment au cœur de l'histoire de la Nouvelle-France.
Et en termes d'exposition, qu'est-ce qu'on y visite?
Donc, en termes d'exposition, cette année, tout d'abord, on a une superbe exposition sur la contrebande. Donc, c'est notre exposition temporaire qui est là pour 3 ans. On est à la première année. Et donc, c'est la contrebande entre Montréal et Albany. Donc, c'est une exposition qui est vraiment pour tous, pour toute la famille, une exposition dans laquelle on a un jeu, on devient contrebandier, ce qui nous permet d'apprendre quels étaient les produits recherchés, des produits de luxe, notamment les toiles, des qu'on appelle des indiennes, des tissus, le sucre. Donc, on est vraiment dans l'aspect commercial et quels sont les réseaux donc pour être capable d'avoir les marchandises qu'on désire. Donc, c'est vraiment le thème, là, c'est les produits recherchés à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent du côté de la Nouvelle-Angleterre, qu'est-ce qu'on veut à Montréal et quels sont les liens qu'il y a entre les deux colonies. Donc, on a ça. On a aussi donc présentations là, de tir, donc une nouvelle performance de tir qu'on fait cette année, tout en musique, avec un exercice militaire qui date de 1704. On a la possibilité de visiter le site là, donc par soi-même avec un petit cahier d'accompagnement là, qu'on appelle à Parc Canada les cahiers explorateurs. Il est tout nouveau, celui de cette année, donc on a revu la formule. Et bien sûr, on a toutes nos activités là, de démonstration d'uniformes, l'histoire du bâtiment et l'architecture du bâtiment.
Quand on parle du cahier explorateur, c'est pour les enfants, c'est pour quand on y va en famille?
Oui, quand vous venez en famille. Donc, le petit cahier explorateur, c'est un cahier qu'on a conçu pour qu'il y ait vraiment à la fois un regard sur le bâtiment, mais beaucoup d'interactions entre parents et enfants. Et le cahier est conçu pour que ce soit une quête. Donc, on a un objectif à atteindre à la fin. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez ludique à faire.
Quand on va visiter vos expositions, il y a un coût d'entrée?
Oui, donc première des choses, cette année, depuis cette année, donc les 17 ans et moins, c'est gratuit. Donc lorsqu'on vient en famille avec des enfants, 17 ans et moins, c'est gratuit. Les adultes, c'est 5 et 65. Et les aînés, à partir de 65 ans, 4 et 90.
Là, on est en plein mois de l'archéologie et le Fort Chambly tient une activité dans le cadre de ces événements-là ce week-end.
Oui, donc en fait, on profite d'une belle occasion. Pour ceux qui connaissent un peu le parc du Fort Chambly, c'est un magnifique parc sur le bord de la rivière Richelieu, il y a le bassin. Donc, c'est un très, très bel espace boisé. Et depuis 2 semaines, on procède à des fouilles archéologiques. Donc, on est en train, en fait, de planifier de reboiser une partie du parc. Il y a 26 arbres qui vont être replantés éventuellement. Et donc, on a fait appel à des archéologues pour qu'ils viennent vérifier, si avant de planter les arbres, s'il y a quelque chose à ces endroits-là. Donc, depuis 2 semaines, les archéologues font ce qu'on appelle des puits de sondage. Donc, ils vont creuser. Et on invite les gens, le week-end prochain, à venir voir les archéologues sur le site. Donc, il y aura un puits de sondage ouvert. Les archéologues vont être présents pour expliquer vraiment leur démarche, comment travaille un archéologue, des choses à voir. Mes collègues auront aussi avec eux des objets qui ont été trouvés dans des fouilles précédentes. Donc, il y a eu des fouilles ici à la fin des années 70 où on avait trouvé énormément d'objets. Et ce week-end, donc, on aura certains de ces objets-là. On va voir les fouilles en cours actuelles, donc avec les gens qui sont en train de les effectuer. Et ce qui est intéressant, donc, vous pouvez les voir sur 2 jours, samedi et dimanche, mais ils seront encore présents la semaine qui suit. Donc, même si on n'aura pas d'activité spécifique la semaine qui suit, les archéologues seront toujours présents pour poursuivre leur travail.
Comme ça se déroule à l'extérieur, c'est une activité gratuite?
Oui, c'est une activité gratuite. Donc, lorsque les gens arrivent au Fort Chambly, on va être très bien situé. Donc, en fait, sur l'allée principale qui mène à la porte d'entrée, on va avoir une installation dans le parc avec là où ils sont en train de fouiller actuellement. Donc, il y aura une petite table, ça va être bien affiché. Et donc, on aura des collègues qui seront disponibles pour répondre à vos questions.
Et le week-end suivant, les 18 et 19 août, c'est la Saint-Louis. Pouvez-vous nous expliquer un peu à quoi consiste cet événement-là?
OK. Bien, la Saint-Louis, premièrement, on appelle ça la Saint-Louis parce que au 17e siècle, quand les premiers hommes sont arrivés pour faire le fort, donc ils l'ont construit au moment où c'était la fête de Saint-Louis, le roi de France, Louis IX. Donc, ils avaient nommé le premier fort Saint-Louis. Donc, c'est pour ça qu'on a ce nom-là pour notre fête. Par la suite, donc, c'est une fête là, qui est jumelée avec le symposium de la ville de Chambly, le symposium d'art. Donc, on a le parc qui est entièrement occupé cette fin de semaine-là avec le côté de la ville avec les artistes. De notre côté, on va avoir un campement militaire avec la garnison de Québec qui vont faire des démonstrations de tir. Donc, nous aussi, on va faire des démonstrations de tir de canon, tir de fusil. Et on va voir la vie quotidienne dans un campement militaire. Cette année, on a ajouté aussi tout un volet amérindien. Donc, il y aura présence d'intervenants amérindiens, Mohawks et Abénaquis. On a devant le fort ce qu'on appelle, nous, notre forêt nourricière, c'est-à-dire que dans le cadre d'une exposition contrebande, on apprend aux gens à bien connaître les ressources de la forêt pour survivre en forêt. Et donc, on va mettre ça en valeur. Donc, il y aura des dégustations de limonade, de gelée de conifères. Il y aura, avec les Amérindiens notamment, avec les démonstrations de vannerie. On va aborder aussi les wampum, les symboliques des wampum. Donc, il y aura aussi du chant, de la danse, fumage de poisson. Donc, on a vraiment un beau volet amérindien cette année. Juste souligner...
Vous alliez dire?
Avec l'exposition temporaire, on a eu le support des communautés amérindiennes pour parler de ce sujet-là, parce qu'ils étaient d'excellents voyageurs, donc ils connaissaient bien le territoire. Fait qu'on on souligne cet apport aussi.
Monsieur Fortin, c'est un lieu qui est totalement accessible, hein, pour finir.
Oui, totalement accessible. Donc, si les gens se présentent, le parc est facilement accessible. Donc, d'ailleurs, si les gens viennent pour le mois de l'archéologie, là où on va y situer, ça sera accessible. Quelqu'un arrive en fauteuil roulant, il n'y a aucun problème.
Parfait.
Lorsqu'on entre dans le phare, il y a un ascenseur qui permet de visiter l'ensemble des salles.
Wow, merci.
Aucune difficulté.
Superbe.
Et on peut trouver tous les renseignements logistiques, comme par exemple comment se rendre sur le site web du phare Chambly.
Oui, consulter le site web, il y a toutes les informations. On parle aussi de la programmation.
Alors, on rappelle, c'est pour les fouilles archéologiques, c'est ce week-end, les 11 et 12 août. Et pour la Saint-Louis, c'est le 18 et 19 août. Merci beaucoup, M. Fortin.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
batoto yake Stani kandala chunga paroase yake Shambosko na damartine banakomesha Evariste na Priscilla banakomesha Jamstine kanate bogo banakomesha.
Il s'appelle Mapumba. Est-il congolais? Je ne sais pas, mais on trouvait que ça vous annonçait bien et ça annonçait bien le sujet de votre chronique. François de Beaulieu, bonjour.
Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Alors j'apprécie, c'est une belle façon de mettre en scène effectivement un très beau sujet aujourd'hui.
Alors vous allez nous présenter quelqu'un qui cadre bien dans vos chroniques. Je rappelle que vous êtes un chroniqueur, vous réalisez une chronique qui est diffusée à toutes les semaines sur Facebook et maintenant depuis quelques semaines aussi à notre émission ici à MLT qui s'appelle « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde ». Alors aujourd'hui vous nous présentez quelqu'un qui est loin d'être ordinaire.
Absolument, effectivement. Alors tout d'abord son nom, si vous le voulez bien, il s'agit de Fabrice Bouaboula Moutima. Il a 34 ans, il a un surnom qui est Fabrice Don de Dieu. Alors c'est assez étonnant parce que ce que nous allons découvrir, c'est qu'il est effectivement congolais, originaire du Congo. Il a une licence en art dramatique, c'était cela effectivement qui l'appelait au tout début. Et puis il est tombé dans la danse, et c'est devenu effectivement une histoire d'amour, une véritable passion. Et nous allons en parler dans un instant, mais si vous le permettez, poursuivons rapidement son portrait. Donc 34 ans, disais-je, eh bien, je vous propose effectivement d'aller voyager avec lui. Il est originaire de Kanituga. Kanituga, c'est dans l'est du Congo, et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sans doute la région la plus meurtrie du Congo, car depuis une vingtaine d'années, de façon permanente, le pays vit des conflits extrêmement douloureux avec des déplacements de population et malheureusement de très nombreux morts chaque année. Alors évidemment, notre ami Fabrice a été sensibilisé dès le début, dès son enfance évidemment, par cette situation dramatique. Il est tombé dans la danse en effet, et ce qui est étonnant, c'est qu'il utilise la danse, pour reprendre son expression, il utilise la danse comme une arme de construction massive. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de l'écouter à travers quelques extraits d'un entretien que j'ai réalisé avec lui, il y a quelques semaines, où il va nous parler de la danse qu'il met au profit et au bénéfice de réfugiés dans un camp qui est donc au Congo et qui accueille des réfugiés de Centrafrique. Alors, il va nous parler d'abord en nous donnant quelques chiffres pour nous montrer l'ampleur de ce programme et tous ceux et celles qui ont été qui continuent d'être concernés par ce programme.
Ce qui est magnifique, effectivement, c'est cette capacité de la danse, justement, à réparer les âmes, à chasser, si vous voulez, les traumatismes, à remettre l'âme dans le corps pour que l'humain retrouve l'essence de la vie, l'essence du rapport humain, et qu'on utilise justement cet art pour diminuer les taux de violence dans les camps des réfugiés, mais également travailler sur la cohabitation pacifique entre les autochtones et les réfugiés. Donc, les ateliers sont directement destinés aux réfugiés, mais nous associons aussi les autochtones parce que la culture réunit les gens et la danse, comme je l'ai dit tantôt, fédère les gens, et nous utilisons donc cette force-là de cet art pour arriver à ces magnifiques résultats qui a tourné dans le monde. Et donc, il y a une vidéo qui a été mise en ligne que vous avez découvert effectivement et qui a fait plus d'un million de vues à moins d'un mois sur la toile, sur le site du Haut Commissariat pour les réfugiés.
Alors effectivement, c'est un programme assez étonnant, on ne s'y attendrait pas. S'agissant de réfugiés, on pense que leurs besoins sont tout autres. Il nous en parlera dans quelques instants. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de l'écouter nous parler du détail de ce programme. Parce que vous allez voir, ça aussi, c'est surprenant.
Je suis venu avec toute cette formation que j'ai eue auprès de ce chorégraphe Salia Sanou, que j'ai adapté par rapport à la situation congolaise, par rapport aux camps que j'ai visités. Les tout premiers camps, c'était les camps des Mollets, où il y avait 22 000 personnes. Et les premiers stages là-bas qui ont pris 2 mois ont accueilli près de 1 800 réfugiés. Donc tout a commencé en 2015. C'est là que j'ai commencé ce programme. Je vais le faire en 2016, je vais le faire en 2017. Et tout récemment encore, je viens de faire le même programme. Nous sommes en 2018 dans le camp de Inke, où il y a près de 17 000 réfugiés. Et c'était au bénéfice de 1 008 réfugiés.
Oh là 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 là, mais c'est incroyable ce que fait ce bonhomme.
Oui, c'est incroyable. Et ce qu'il faut retenir de ce qu'il vient de dire, c'est qu'effectivement, non seulement il s'adresse à des réfugiés, mais en même temps, les autochtones, donc la population congolaise qui vit dans les endroits où ces camps sont installés, eh bien, n'est pas exclue. Bien au contraire, on l'intègre dans ses programmes pour qu'ils aient la possibilité, les habitants locaux, donc les autochtones, de se rapprocher de ces réfugiés, de comprendre que leur réalité, en fait, est intimement liée, et elle va être intimement liée pendant, malheureusement, des périodes assez longues. Alors, c'est un travail qui vise à la fois, effectivement, à pacifier les réfugiés, parce que n'oublions pas que certains d'entre eux ont dû quitter leur pays dans le cadre de conflits divers, mais parfois ils se retrouvent dans un même camp, alors qu'ils étaient déjà dans leur pays d'origine, en conflit, et parfois en conflit ouvert, armé, et ils se retrouvent là, et ils doivent cohabiter. Et curieusement, donc, la danse apaise effectivement tout cela et leur permet de reprendre, de se réapproprier leur propre vie et de réaliser qu'ils sont avant tout des êtres humains et qu'ils ont plus en partage qu'en différence. Alors, ce que je vous propose pour poursuivre, c'est un dernier entretien, un dernier extrait donc, de cet entretien que j'ai eu avec Fabrice. Et il va nous parler justement de comment les réfugiés accueillent son programme, accueillent son invitation à venir partager ces programmes de danse, quand on sait, rappelons-le, qu'évidemment, leurs besoins urgents sont de toute autre nature. Écoutons-le.
Vous sentez tout de suite que ce n'est pas la danse que ces gens attendent. Ils sont dans les besoins de tous les gens, les besoins médicaux, nourriture, logement et tout. Voilà, mais quand vous vous amenez la danse, vous imaginez les regards qui vont vous accueillir parce que tout le monde sait que ce n'est pas la danse qu'il faut amener là-bas. Alors la force justement de cette discipline se manifeste au travers les gens qui acceptent de participer, peut-être par curiosité d'abord, dans ces programmes. Après, là où nous nous organisons des ateliers, il y a tout autour de chaque hangar, de chaque classe de danse, environ 60 à 100 personnes qui sont autour. Donc, il y a un effet positif d'abord de la danse sur la personne qui pratique, qui se défoule, qui se détraumatise, qui se désintoxique de tous les effets de la guerre, des méfaits de la guerre, mais aussi la personne qui regarde peut être dans les camps, mais aussi enfin regarder quelque chose qui lui plaît aux yeux, et ça a un effet, un impact sur son âme, sur son esprit, et c'est possible donc de revoir les sourires qui reviennent sur les visages, et ça reconstruit même, et ça donne même du sens à mon travail, et ça me donne envie de continuer et à rester danseur professionnel, mais également cet ambassadeur de l'espoir, comme on l'a surnommé.
Ah, magnifique. Il n'y a pas que du laid, il y a du beau aussi sur cette terre.
Il y a du très beau, et peut-être, pour conclure, ce que j'aimerais ajouter et qui m'a particulièrement touché chez notre ami Fabrice, c'est qu'il a donc 34 ans, comme je le disais au tout début. Il est resté au Congo, il est à Kinshasa. Beaucoup de jeunes gens et de jeunes femmes de sa génération sont partis en Amérique du Nord, sont partis en Europe pour y tenter leur chance. Ils avaient des études, ils ont poursuivi dans d'autres pays parce qu'ils étaient à la recherche d'opportunités. On ne peut pas les en blâmer. Mais par contre, ce que l'on peut, c'est sans doute féliciter le courage de celles et ceux qui restent sur place parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ont une pierre à apporter à la reconstruction de leur pays pour qu'un jour toute cette diaspora puisse enfin librement revenir et à leur tour contribuer évidemment au développement d'un pays auquel ils sont fondamentalement attachés. Ils ont des racines, ils ont une langue en partage et si les conditions économiques et sociales et souvent militaires étaient tout autres, jamais ils n'auraient quitté ce pays. Alors voilà, je voulais partager tout cela avec vous. Fabrice, c'est à la fois un bel exemple d'un artiste qui a compris qu'il y avait une dimension sociale dans son travail, dans son art, mais aussi féliciter ceux qui, comme lui, eh bien, persistent, résistent et font de leur art une arme de construction massive.
François de Beaulieu, merci. Je rappelle le titre de votre chronique. Il se passe toujours quelque chose. Pas toujours, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde.
Absolument.
Mais toujours pareil.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci de votre accueil.
Tumba nangwaka, Congo et tumba nangwaka, et tumba nangwaka, bingi bong et tumba nangwaka. Tumba nangwaka, Congo abunda nangwaka, et tumba nangwaka, bingi bong et tumba nangwaka. Enati, yenda nati yenda ya, yenda nati yenda ya. Janati Congo nati ai, janati Congo nati ai. Ba Afrika na ba Afrika mujila bela. A Congolia kanda mujila bela. Kula Afrika vukisa mabanza. Kula Congo vukisa makanda. Bamuta bavukane ya mbongi, vukisa mabanza ya. Enati, enati, yenda nati yenda ya, yenda nati yenda ya. Janati Congo nati ai, janati Congo nati ai. Sala mabe, mabe na tata nayo. Basala soni, soni na mama nayo. Mema nkoko nayo, mema nkoko na bongo. Moto moindo la muka, fongo la miso. Enati, enati, yenda nati yenda ya, yenda nati yenda ya. Janati Congo nati ai, janati Congo nati ai. Enati, enati, yenda nati yenda ya.
Sur ce rythme congolais, Christiane Campagna et Clotilde Saï vous invitent à rester des nôtres pour la suite de l'émission Aime l'été sur Canal M, bien sûr.
Vous écoutez Aime l'été.
Rebonjour tout le monde, toujours Christiane Campagna avec vous en compagnie de Clotilde Saï. Au cours de cette demi-heure, Annick Filion vient nous présenter un instrument rare, le Célesta, et une joueuse de Célesta, la musicienne Jennifer Bourdage.
Quant à moi, bien, je vais vous présenter une chronique qui m'est, honnêtement, ça m'est venu à l'esprit ce matin parce que ça m'a fatigué, quelque chose que j'ai lu dans la presse plus au sujet de ces légendes trompeuses sous les photos.
Et j'entends les abeilles, j'ai ma part d'ombre qui s'abreuve de soleil, une corneille qui crie, je crois qu'elle me jalouse. Ma blonde à mes côtés qui détache sa blouse. J'ai une voiture qui me mène dans la nature, j'ai même une guitare en peau de léopard. J'ai l'abondance qui maintient son équilibre, et pourtant j'ai la déprime qui m'empêche d'être. J'ai un camion de tristesse et l'écho de mon ego me fait cadeau de cette détresse. Ma part d'ombre se moque de mes sabotages comme un kid qui rit devant un car en volage. Quand soudain je me réveille et tiens j'entends une voix, ce n'est pas celle de ma blonde ni celle de la corneille, mais celle du soleil qui me dit quelque chose de weird. Trouve mon reflet dans ton esprit, tu seras.
eres libre. Si te preguntas en qué pie, saliendo de los sueños, ahí me levantaré. No eres libre. Si dudas de lo que tienes, siente y agradece el soy.
Oye, lo tienes.
Le soleil me parle de même tête que j'avais pas mis assez de crème. Il m'a dit brille, 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 brave, 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 même tout ça qui t'entrave. Et depuis que j'ai la recette du steak à la lumière, je me fais des barbecues dès que je ferme les paupières. Ma part d'ombre s'envole avec la corneille. Ma blonde est une lune qui pue car je suis
Mathieu Lippé, sa chanson « Libre ».
Comment une simple légende sous une photo peut, totalement ou en tout cas partiellement, altérer notre jugement, voire même la compréhension de la dite photo et surtout de ce qu'elle véhicule? C'est la chronique que je vous propose maintenant. Si vous le voulez bien, je voudrais planter le décor, ou plutôt replanter le décor, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu. Je voudrais remercier Mathieu Perrault de la Presse Plus qui signe ce papier qui m'a titillé l'esprit, et je me suis dit, tiens, voilà quelque chose dont j'ai envie de parler. Alors, on se souvient, c'était juste avant Noël, l'an dernier, il y a une vidéo d'un ours polaire, complètement émacié dans l'Arctique canadien. Et cette vidéo-là avait fait le tour de la planète. On voyait cet ours-là qui se déplaçait, mais quand on dit émacié, il était décharné, littéralement. Sale, vraiment, c'était tragique.
Hein. Oui, je m'en rappelle. Je me souviens de cette image.
Bon, on fait partie, Christiane, vous et moi, et j'imagine pas mal de nos auditeurs, des 2,5 milliards de personnes qui l'avons vu. Le photographe qui a filmé cet ours affamé vient de publier un essai. En fait, la photographe vient de publier un essai où elle dit regretter d'avoir perdu le contrôle du message véhiculé par cette vidéo, qui a été souvent présentée comme une conséquence directe du réchauffement de la planète, par erreur. Et Mathieu Perrault donc explique. Dans un essai, donc dans l'essai en question, car c'était fin juillet, dans le National Geographic, pardonnez-moi si je le dis en français, de France, avec le gros accent et tout, la photographe qui s'appelle Christina Mittermeier explique que son collègue, qui s'appelle Paul Nicklin, avait vu cet ours polaire alors qu'il était déjà en expédition, et il l'avait vu à l'automne 2016, c'était dans l'île Somerset au Nunavut. Alors il avait demandé à Madame Mittermeier de mettre sur pied une expédition de son organisme Sea Legacy, qui vise à protéger les océans, notamment en exposant les conséquences des changements climatiques. La photographe, qui est mexicaine d'origine, et son collègue canadien ont retrouvé l'ours polaire. Ils ont monté une expédition, ils ont retrouvé l'ours polaire un an plus tard, donc en automne 2017. Il semblerait que certains membres de cette expédition, c'est ce que nous dit Mathieu Perrault, se soient mis à pleurer en voyant à quel point l'ours était en mauvais état. Ça fait partie des souvenirs de Madame Mittermeier. Et après avoir cherché en vain de quoi se mettre sous la dent, ils ont vu cet ours qui, finalement, à un moment donné, a fouillé dans un baril vide. Il n'a rien trouvé, il est reparti, il a plongé et il est reparti. Alors jusque-là, tout va bien, dans le sens que on est dans le documentaire d'émotion, il n'y a pas de parti pris, toute personne normalement constituée, hein, Christiane, vous, moi, tout le monde, on va forcément s'émouvoir devant un spectacle aussi navrant, parce que c'est navrant de voir cet ours complètement rachitique et affamé. Mais il y a un mais, la légende. Paul Nicklin a mis la vidéo sur Instagram avec comme titre « Voici de quoi a l'air la famine » en précisant que des études montraient que l'ours polaire disparaîtrait de la planète d'ici un siècle à cause des changements climatiques. Donc, il ne fait pas l'analogie directe à ce moment-là, lui. Il dit « à cause des changements climatiques, cet ours a faim et va mourir de faim ». Il dit « le jour viendra où des ours comme celui-ci mourront de faim ». On peut donc penser, vous, moi, auditeur, lecteur et voyeur de cette image infiniment triste, que cet ours est peut-être aussi simplement malade. Il n'y a rien qui nous dit que c'est à cause des changements climatiques. Il est peut-être simplement malade ou simplement en fin de vie. Vous savez, en fin de vie, on ressemble, nous humains, bien souvent à cet état-là de maigreur, de surtout si on est malade. Sauf que, explique toujours M. Perrault de la presse, National Geographic a repris la vidéo, qui est devenue virale, en changeant le titre. Et le titre était devenu « Voilà de quoi ont l'air les changements climatiques ».
Oh !
Oh ! Différence ! Nous sommes devenus, explique Mme Mittermeier dans son récent essai, nous sommes devenus un autre exemple d'exagération environnementaliste. Nous avons peut-être fait une erreur en ne racontant pas l'histoire au complet. Là, je la cite telle qu'elle est citée dans le papier de Mathieu Perrault. Alors, quelle était cette histoire ? Eh bien, que nous cherchions une image illustrant l'avenir de la planète, mais que nous ne savions pas ce qui était arrivé à cet ours polaire, pour qu'il soit aussi maigre. Je ne peux pas dire que cet ours était affamé à cause des changements climatiques. Mais je sais que les ours polaires ont besoin de la banquise pour chasser et que le réchauffement rapide en Arctique l'a fait disparaître pour des périodes de plus en plus longues, d'année en année. Alors, National Geographic a modifié en catimini la légende de la vidéo de M. Nicklin en juin dernier en précisant être allé trop loin, en établissant une connexion définitive entre les changements climatiques et cet ours polaire en train de mourir de faim. Selon Farah Khan, qui est responsable torontoise du dossier climatique de Greenpeace Canada, on aurait dû préciser simplement qu'on ne peut pas spécifiquement parler de cet ours polaire comme d'une victime du réchauffement de la planète, mais plutôt des études qui prévoit que les ours polaires auront de la difficulté à chasser sans banquise. Alors, entendez-moi bien, je ne vous ai pas raconté cette histoire-là pour faire plaisir aux climato-sceptiques, parce qu'effectivement, ils ne manqueront peut-être pas d'utiliser ce mensonge pour argumenter ce qu'ils ont à dire. Non, moi, je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'un simple titre peut altérer notre bon jugement. Et je trouve qu'en tant que lecteur, nous avons peut-être le droit et le devoir de nous poser à chaque fois cette question : qu'est-ce qu'on ne nous dit pas ? En l'occurrence ici, pourquoi la légende associée à cet ours est-elle rédigée au présent plutôt qu'au conditionnel ?
Réveille-moi, enlève-moi du gris, épuise-moi, aux extrêmes, je suis en vie. Je connais les recoins par cœur. C'est tout petit.
Et oui, la chanson Hypothèse que nous chantait Geneviève Toupin.
Une artiste du Manitoba, hein, si je ne me trompe pas. Nous accueillons maintenant Annick Filion qui vient nous faire sa chronique sans tambour ni trompette.
Sans tambour ni trompette.
Bonjour Annick.
Bonjour Clotilde.
Je suis très contente de vous avoir en direct aujourd'hui avec moi parce que j'écoute ce que vous faites religieusement. C'est petit reportage, petit par la taille, mais pas par la qualité, hein, on s'entend. Et je suis ravie de pouvoir moi-même assister à cela en direct, mesdames et messieurs, Annick Filion, bravo.
Il n'y a pas de tambour ici, il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de trompette.
Alors
ben aujourd'hui, donc on va vers un instrument d'orchestre. Alors, c'est un instrument qui a été inventé il n'y a pas si longtemps comparativement à l'origine de tous les autres instruments. Ouais. Et donc, on connaît tous sa sonorité, on l'a tous déjà entendu, mais très peu connaissent l'instrument. Alors, je pique peut-être votre curiosité.
Bon, on sait que c'est pas le violon, non. On sait que c'est pas, tu vois, bon, tout ça, c'est sûr.
Je vous donne un petit indice, ouais. Le temps des fêtes. Alors moi, ça fait une semaine que je me sens comme le Noël du campeur. J'ai la petite ritournelle dans la tête, ouais. Vous allez la voir. Et donc, je vous invite à vous caler dans votre fauteuil. Et très, très paisiblement, et vous laissez pénétrer par la magie, la féerie, avec Jennifer Bourdage, qui est pianiste à l'Orchestre métropolitain. On y va avec son reportage?
Aujourd'hui, nous rencontrons la fée marraine de l'Orchestre métropolitain, celle qui réalise la magie grâce à son instrument des plus célestes. Celle qui crée une atmosphère où tous les rêves sont permis. Ceux de Cannes, grâce à Camille Saint-Saëns. Ceux du temps des fêtes avec la fée dragée de Tchaïkovski. Ceux des cieux avec les planètes de Horst. Chacun de ces compositeurs ont déposé une part de mystère, de féerie dans leur composition. Et c'est Jennifer Bourdage qui, grâce à ses doigts de fée, nous enchante sur son célestat.
Merci beaucoup. Alors, moi, c'est Jennifer Bourdage. Je suis pianiste et je joue aussi du célestat à l'Orchestre métropolitain. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai le bonheur donc, de jouer avec tous ces merveilleux collègues, donc du piano et du céleste.
Du céleste? J'en ai jamais entendu parler. C'est quoi, au juste?
Quand on parle du célestat et que les gens ne savent pas de quel instrument on parle, quand on joue un extrait de la danse de la fée dragée, là, tout le monde fait « Ah oui, bien sûr, c'est cette fameuse musique célèbre. » Avec la clarinette basse.
Le célestat, c'est l'instrument qui a l'air d'un tout petit piano à côté de la harpe dans l'orchestre?
En fait, le célestat, même s'il a l'air d'un piano, la mécanique est vraiment celle d'un instrument à percussion. Ce sont vraiment des lames de métal, un peu comme le glock. C'est comme si on jouait du glock, mais avec nos doigts au lieu de le jouer avec des baguettes.
Et du glockenspiel, c'est comme un xylophone.
Exactement, c'est ça. Je vais me trouver des extraits là, qui vont... parler.
T'en as fait enchanté de Mozart?
Oui, mais là, c'était pas...
C'était le Glockenspiel, habituellement.
Exactement. Mais là, ça, nous, on l'a fait avec un célestin. Parce que ça, c'est un thème et variation. Fait que la mélodie à l'orchestre fait do, fa, fa, do, bo, ba, da, 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 bom, bom, ba, da, 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 da. Puis le céleste vient accompagner la variation. Do, si, si, sol, sol, do, ra.
Mais le célestin fut inventé en 1886. Bien après l'époque de Mozart.
Mais c'est vrai que, bon, à l'époque de Mozart, le célestin n'existait pas, mais c'est souvent utilisé, donc, parce que dans cette ère-là de Papageno, il y a des variations, fait qu'il y a de plus en plus de notes qui arrivent. Fait que c'est plus facile pour un pianiste de faire qu'au glock avec les baguettes, là. Mettons que les doigts, ça va mieux avec les doigts qu'avec des baguettes.
Le célestin, c'est la magie.
C'est somptueux.
Celle d'une flûte.
C'est élégant.
Ou encore celle du vol majestueux, d'une chouette à Poudlard. Et Jennifer Bourdage, toi qui es pianiste pour l'Orchestre métropolitain, en quoi est-ce différent de jouer du célestin comparé au piano?
Quand je joue du célestin, je me sens comme si je faisais partie donc, de la section percussion, harpe. Donc, j'aime bien ça. C'est ce que j'aime dans la musique d'orchestre, de faire partie d'un tout, d'être dans un groupe.
Et justement, c'est l'heure de la répétition pour tous les musiciens de l'OM en compagnie de leur chef, Yannick Nézet-Séguin. C'est dans une joyeuse cacophonie que nous avons ramené le Célesta dans la grande salle de répétition. Et que j'ai souhaité un bon concert à venir à Jennifer Bourdage.
À la fin de la quatrième symphonie de Shostakovich, c'est le Célestin qui termine la symphonie. Puis, à travers toute cette symphonie qui est d'une lourdeur, vraiment, c'est... Mais on dirait que le Célestin, à la fin, vient amener... Je ne sais pas si c'est une touche d'espoir, je n'irai pas jusque-là, mais assurément, laisse penser qu'il y a une suite à tout ça. Quand le Célestin termine une œuvre, ça ne met pas comme un point final, je trouve. Ça met comme un... c'est des points de suspension plutôt.
Wow!
Ça finit féerique. Hein,
oui, bien justement, relax. Ça finit que ça finit pas, quoi. Puis que ça, on en aurait pris encore, justement. Ah, oh, quelle belle rencontre.
J'ai une petite anecdote, oui. Si vous voulez savoir.
Oui, bien sûr.
Donc, le Célestin, donc, il fut inventé il y a à peu près 130 ans. Donc, oui. C'est assez récent comme instrument.
Ouais.
Et Tchaïkovski, en fait, Marius Petipa, qui est le chorégraphe de Casse-Noisette, a demandé à Tchaïkovski, je veux qu'on entende la magie. Et de trouver toutes sortes de façons. Tchaïkovski dit, ouais, une fée dragée, quel instrument on peut prendre pour représenter une magie de fée dragée? C'est pas nouveau. Alors donc, il s'est dit, je vais trouver un nouvel instrument. Ce qu'il a fait, donc, il a écrit à son, je l'appelle son manager de l'époque, et il a dit, alors j'ai trouvé le Célesta, mais surtout, n'en parle pas à Rimsky-Korsakov, parce que je veux être le premier, je veux pas qu'il me
pique
l'idée. finalement, c'est un autre, c'est Chausson. Qui a pris l'idée en premier, alors qui a battu Tchaïkovski au fil d'arrivée pour utiliser l'instrument en premier avec la tempête.
Oui.
Mais bon, tout le monde connaît le Célestin à cause de Tchaïkovski.
Hein. Oui, mais puis on connaît beaucoup mieux la fée dragée de M. Tchaïkovski que la tempête de Chausson, par
exactement.
Exemple. Hein, ça,
exactement.
C'est quand même, ça reste dans les hits. Hein.
Oui.
Vous êtes parmi nos hits de l'été, Annick
merci,
Fillion.
Merci
infiniment pour ces reportages-là, tellement bien ficelés. C'est un régal à entendre, Christiane. Hein?
Oui, merci beaucoup, Annick. C'était vraiment savoureux.
Et je vous invite à aller voir l'Orchestre métropolitain quand vous avez la chance.
Oui, et moi, je vous invite à réécouter absolument toutes les émissions de M l'été cet été sur Canal M parce que vous pourrez du coup réentendre. Oui,
je vais rassembler toutes les chroniques d'Annick, ses reportages dans un billet sur le site web d'ici la fin du mois d'août.
Eh bien voilà.
Vous allez avoir plein d'heures d'écoute.
Merci beaucoup, Annick, merci. On a bien quelques petites brèves à faire entendre à nos auditeurs, Christiane.
Ben oui, ben puisqu'on vient de parler de musique avec Annick et qu'on parlera de musique traditionnelle au retour, j'ai envie de vous inviter demain soir à aller voir les charbonniers, aller entendre plutôt, ben les voir aussi,
ben oui.
Les charbonniers de l'enfer qui seront en spectacle gratuit au Parc Laurier dans le cadre des concerts Campbell. Ça se passe demain à 19h30 et c'est une belle occasion de se faire chanter le patrimoine.
Et on annonce très beau. J'ai envie de vous partager une tellement belle initiative, mes amis. Ça s'appelle Projet Voisin Aidant, offre d'emploi du Québec, proposé par le Centre communautaire Saint-Antoine pour les 50 ans et plus. Le Projet Voisin Aidant est un projet qui vise l'entraide entre voisins. Alors, chaque bénévole sera jumelé avec une personne qui a des besoins particuliers. Et il effectuera ainsi des visites d'amitié d'une durée d'environ 2 heures, une fois par semaine. Les bénévoles doivent être prêts à s'investir, bien évidemment, pour une période minimale de 6 mois. C'est dans le quartier de la Petite Bourgogne. Vous avez jusqu'au 14 septembre 2018 pour vous inscrire, pour postuler, si vous le désirez. Vous pouvez passer par le site qui est Centre Saint-Antoine en un seul mot. Centre, évidemment, au singulier, ST Antoine. Comme ça s'écrit, 50plus.com/fr, ou sinon il y a un téléphone 514-933-7351. Allez, je vous le redonne, 514-933-7351.
Eh bien, une invitation toute particulière à aller faire du vélo, une invitation de Moelle Épinière et Motricité Québec, qui vous invite à une activité de vélo à main. Ça se déroule le samedi 18 août de 11h30 à 16h. C'est au parc René-Lévesque, près du canal de la Chine. En fait, c'est complètement à l'autre bout du canal de la Chine. C'est un magnifique parc qui est sur une jetée à la Chine.
Ah oui.
Où vous avancez sur le lac Saint-Louis. C'est vraiment magnifique. Pour le transport adapté, vous demandez le 275 chemin du canal et vous pourrez utiliser des vélos à main ou à pied. Famille et amis sont les bienvenus. L'activité commence à midi, mais vous pouvez apporter votre lunch si vous, un petit peu avant, vers 11h30, si vous voulez manger tout le monde ensemble. Plusieurs modèles à essayer. On recommande, bien entendu, le port du casque lors de cette activité. Je vous invite à aller voir la page Facebook de Mémo Québec pour avoir plus de détails.
Et c'est quand ça, Christian?
Ça, c'est le samedi 18 août de 11h30 à 16h.
Merci. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Canal M, c'est l'émission M l'été qui est animée pour vous aujourd'hui par
Christiane Campagna
et Clotilde Seil. Restez là.
Vous écoutez M l'été.
Saignant votre compagnie, vous écoutez Canal M, c'est l'émission Aime l'été. En cette dernière partie, une chronique littéraire avec Yannick Olassa qui va venir nous présenter un livre à se glisser entre les oreilles. Ça s'appelle « Va chercher l'insolite destin de Julia Verdi » signé Geneviève Labrec. Et puis dans quelques secondes, Christiane Campagna nous propose une chronique de musique traditionnelle. Elle va accueillir pour cela Catherine Planet.
C'était la chanson « Parlez-nous à boire » du groupe Rose Vagabond, un groupe dont a fait partie notre invitée Catherine Planet. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci d'être là pour inaugurer cette série là, de chroniques trad qu'on va faire dans les prochaines semaines. Parce qu'à Canal M, une des choses qu'on aime faire, c'est combattre des préjugés. Et une idée reçue trop répandue à mon goût, c'est que la musique traditionnelle est bonne seulement pour quelques périodes de l'année ou quelques types d'occasions. Alors, on va parler dans les prochaines semaines à des gens qui aiment ça toute l'année. Donc, Catherine, vous êtes joueuse de violon.
Oui.
Est-ce que vous avez toujours fait de la musique traditionnelle?
Non, la musique traditionnelle, c'est quand même relativement nouveau pour moi. J'ai pas grandi là-dedans, j'ai pas reçu, ça m'a pas été transmis par mes parents ni mes grands-parents. Donc, moi, c'est vraiment en jouant du violon que ce style-là est venu à moi. Parce que forcément, quand on joue du violon, ben, de temps en temps, on se fait demander « Ah, oh, connais-tu un reel? » Puis, bon, on écoute de la musique. Quand on entend de la musique traditionnelle jouée par ou tout style de musique jouée par du violon, ça pique notre curiosité. Bon, alors c'est comme ça, tranquillement, que la musique traditionnelle est venue à moi. Mais vraiment, elle est venue à moi, je dirais, là, dans les de façon plus sérieuse là, dans les 7-8 dernières années.
Et une chose de... qui fait qu'on a entendu parler de temps en temps de vous dans les médias, tout ça, c'est une activité que vous avez créée qui s'appelle la chasse balcon.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la chasse au balcon?
On fait une chasse au balcon. En fait, c'est une espèce justement de chasse qui est proposée à la population pour trouver un balcon où va se dérouler un spectacle de musique traditionnelle.
Oh, wow!
Ouais, un spectacle qui dure une heure, qui mélange la musique traditionnelle. On fait danser les gens, donc on a des danseurs avec nous. Les musiciens sont sur le balcon, les danseurs sont avec le public. Et ben voilà, c'est une façon, le balcon, c'est une sorte de métaphore qui est très importante pour moi. C'est l'espèce de, c'est un pont entre l'espace privé et l'espace public. Mm. Puis je trouve que la musique traditionnelle se prête vraiment bien à ça parce que, selon moi, quand on connaît notre musique traditionnelle, en fait, quand on est fier de notre identité et qu'on l'exprime, que ce soit via la musique, la nourriture, la langue, etc., là, tout ce qui... ce qui se colle à ça. Quand on est capable d'en être fier et de l'exprimer, ça fait, de façon individuelle, ça fait une personne heureuse, qui n'a pas peur des autres, qui est très ouverte aux autres. Et de façon collective, c'est exactement la même chose. Donc, la chasse balcon, la première mission de ça, c'est d'utiliser la musique traditionnelle pour créer des liens communautaires dans un quartier entre les voisins. Et si ce n'est pas de les créer, ben, du moins de les développer, de les maintenir.
C'est un peu comme la métaphore de la chasse-galerie, quoi.
Ça vient de là. Le nom vient de là. Et l'idée a été inspirée par le temps que j'ai passé en Louisiane, parce que j'ai observé en Louisiane aussi.
Et il y en a une bientôt, une chasse-balcon?
Oui, il y en a une le 17 août prochain. C'est organisé en collaboration avec la Maison de la culture Maisonneuve. C'est à 6 heures. Et donc, on se donne rendez-vous sur le patio culturel. Donc, la Maison de la culture Maisonneuve a un espace aménagé à l'extérieur qui s'appelle le patio culturel. Et ensuite de ça, on va aller chasser un balcon qui est tout près de la Maison de la culture. Et on va être une belle petite gang, hein, parce que la chasse balcon, c'est un collectif d'artistes. C'est pas toujours les mêmes artistes. Donc, pour le 17 août, il va y avoir Marie-Jeanne Brousseau à l'accordéon, Stéphanie Lépine au violon, André Gagné à la guitare, Mélina Mogé-Lavigne et Louis Cloutenay qui vont être les danseurs avec nous.
Rappelez-nous, la Maison de la culture Maisonneuve, elle est située où?
C'est le 4200 Ontario Est.
D'accord.
Et j'en profite aussi pour remercier Long & McQuaid qui nous soutient pour tout ce qui est technique.
Oui, bien sûr. Et vous faites aussi partie du comité artistique du Festival de violon de Sutton, le Festival de violon traditionnel même de Sutton, qui a lieu les 16 et 19 août. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette programmation? Je sais qu'il va y avoir le fameux joueur de violon, Kevin Burke.
Oui, qui va nous transmettre ses techniques et la beauté de sa musique irlandaise. Plusieurs groupes et artistes très, très intéressants. Véronique Place avec son duo Beaton Place avec Andrea Beaton. Annette Gauche, qui va être là avec Andrew Wells Oberiger. Donc, Annie de Gauche, lui, qui a des influences qui viennent d'un petit peu partout, qui aime beaucoup la musique traditionnelle indienne, mais qui joue ensemble. Les deux ont une espèce de répertoire très varié qui se promène du Moyen-Orient à l'Occident, mais aussi de quoi de très, très d'ici, très de chez nous, comme avec Été, Alexis Chartrand, Nicolas Babineau, qui ont un duo ensemble. En formation, donc, il y a Alexis Chartrand, Kevin Burke et Peterson qui vont donner des formations soit en violon ou en guitare.
C'est ça, c'est un festival qui a deux volets. Donc, pour les gens qui jouent d'un instrument, il y a des classes de maîtres pour aller se perfectionner.
Oui, oui.
Et pour Monsieur, Madame, tout le monde, il y a des spectacles.
Exactement, des spectacles. Et puis, on peut aller voir sur le site Internet du Festival de violon de Sutton pour vraiment bien voir la programmation complète. Mais c'est vraiment un rassemblement musical qui est super charmant, tout à fait champêtre. Ça nous fait découvrir le petit village aussi. Donc, l'instant d'une fin de semaine, tout se transforme.
C'était la musique traditionnelle à Sutton, ce que les correspondants sont à Eastman, quoi. À peu près,
oui.
Je veux dire dans l'ambiance, hein, d'après ce que j'entends, là, ce que je ressens.
Oui, tout à fait.
Et là, vous arrivez d'Italie, parce que, bon, j'avais dit, je vais demander aux gens qui vont venir des coups de cœur musicaux. Bon, c'est sûr que ma première idée au départ, mais on va y revenir plus tard, Catherine va revenir, à des artistes traditionnels québécois. Mais les artistes traditionnels, voyage beaucoup. En fait, souvent, il joue plus à l'extérieur du Québec qu'au Québec, parce qu'ailleurs, ils sont dans le circuit folk, dans le circuit world, et ça leur fait faire des découvertes. Et là, vous arrivez d'Italie et vous avez un coup de cœur.
Oui. En fait, je me suis intéressée, moi, j'étais surtout en Toscane, je me suis intéressée, j'étais curieuse vis-à-vis de la musique traditionnelle italienne. Et je l'ai effleurée, hein, je ne l'ai pas étudiée en profondeur. D'ailleurs, la Toscane, c'est pas là que c'est vivant. Je vais retourner plutôt pour visiter le sud, là où la musique traditionnelle est un peu plus présente. J'ai découvert un artiste qui s'appelle Eugenio Bennato. Puis lui, bon, ce qu'il fait, c'est qu'il prend de la musique traditionnelle. Il a fait beaucoup de collectes parce que, à ce que j'ai observé, on n'a pas beaucoup accès à des documents d'archives là-bas. Bon, c'est à suivre, tout ça, mais lui, il en a fait pas mal. Il a ramassé beaucoup de musique dans les rues, tout ça, et il l'a transformé à sa façon. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup dans la musique traditionnelle, c'est l'idée de ne pas se sentir obligé de jouer exactement comme ça jouait il y a 50 ans ou comme ça chantait il y a 50 ans. Donc, lui, il a mis ça un peu au goût du jour, mais toujours de façon... presque totalement acoustique. Des fois, il va avoir de la guitare électrique, d'autres instruments comme ça, mais moi, ce que j'aime dans la musique traditionnelle, c'est la force et la groove qu'on peut faire, qu'on peut créer avec des instruments acoustiques, avec des sonorités qui viennent du passé. Donc, oui, c'est un artiste que j'ai beaucoup aimé. Puis dans ses sujets, des fois, il y a des sujets qui reviennent comme dans des chansons françaises... Donc, il y a toujours des liens à faire.
Des sujets qu'on retrouve donc aussi dans nos chansons traditionnelles qui viennent de France, alors que souvent notre musique est plus influencée par l'Irlande et l'Écosse, mais les chansons souvent sont françaises.
Exactement, c'est ça.
Ben, ce qu'on va faire, juste avant, on va rappeler aux gens que la chasse balcon dans Hochelaga, c'est le 17 août à la Maison de la culture Maisonneuve. Et on va terminer ça, Catherine, en allant écouter Eugenio Bennato. Et puis, on a hâte de vous retrouver le 31 pour connaître d'autres de vos coups de cœur.
Ben, merci de m'avoir reçu.
Merci.
Da che sud è sud, tutto sbagliato, tutto da rifare. Da che sud è sud, tutto sbagliato tranne l'amore. Da che sud è sud, la libertà canta la sua canzone. Da che sud è sud, fatta di note e di parole nuove. Da che sud è sud, il premio Nobel a Nelson Mandela. Da che sud è sud, ma l'apartheid colpisce ancora. Da che sud è sud, la libertà è un battito di vela. È un'onda che va, è Ulisse che rincorre la sua meta. Da che sud è sud, nascere a sud o a nord non cambia niente. La diversità e fra chi è stupido e chi è intelligente. Da che sud è sud, la libertà del sud è in un sorriso. Per le assurdità del professore Cesare Lombroso. Children we, children we all shall be free. Terza classe per ricominciare. Da che sud è sud, sudore, lacrime napoletane. Da che sud è sud, la musica del sud è una preghiera. Da che sud è sud, che può durare una vita intera. Da che sud è sud, tutto il silenzio dei libri di storia. Da che sud è sud, su tutto quello che successe allora. Da che sud è sud, la libertà è di chi non si arrende. Da che sud è sud, e canta hasta la vittoria sempre.
Chi ci vuole far l'amore con chi ti vede via con te ma c'è nessuno la giuria. Quando parli sala ma fuori sni fil shbi fil kulla fil dunya hiya hiya.
Population, we're not a population. Society.
nascere a sud è il prezzo da pagare, da che sud è sud, per l'arte di un artista popolare.
Da che sud è sud, tutto sbagliato, tutto da rifare.
Da che sud è sud, tutto sbagliato, tranne l'amore.
Eugenio Benato, da che sud è sud.
Oh, 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 avec les mains, tu sais. Allez, avec les mains. Avez-vous vu, tiens, parce qu'on a un petit peu de temps. Approchez-vous un petit peu, Catherine, parce qu'elle est restée avec nous. J'ai vu un reportage à la télévision, je pense que c'était aux informations françaises. Il y a plus de 500 signes qui fait partie de la langue italienne. C'est-à-dire, on a répertorié ça, alors tout ça, et à tel point qu'ils ont créé des formations pour les touristes qui arrivent en Italie pour mieux comprendre les Italiens, oh wow, uniquement avec ces signes-là. Alors, ils montraient quelques images de cours. Alors, celui qui est le plus connu, hein, c'est vraiment de serrer le pouce avec les quatre doigts et faire « Che facce ?» Voilà. Mais c'était vraiment passionnant. Alors, je referme la parenthèse. Voyez-vous, c'est ça l'émission Aime l'été. C'est pour ça qu'on aime ça, parce qu'on parle de toutes sortes d'affaires et on parle aussi de livres à vous glisser entre les oreilles. Juste avant d'aller rejoindre Yannick Olassin, je voudrais vous préciser que le 4 septembre, la saison régulière va reprendre ses droits. Et le 6 septembre, j'aurai la joie, l'honneur et l'avantage, comme on dit dans les grandes maisons, de vous présenter la première émission des livres plein les oreilles de la saison. Je ne peux pas encore vous dire qui sera là parce que c'est encore à confirmer, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y aura une émission. Et il y aura entre autres, certainement, Yannick Olassin, que nous allons rejoindre tout de suite et qui va nous présenter un livre d'une auteure que je vais d'ailleurs certainement aussi inviter pour la première émission. Je vais lui laisser le soin de nous la présenter. Bonjour Yannick.
Bonjour, bonjour à vous tous. Oui, donc Geneviève Lefebvre,
voilà.
Ce serait tellement merveilleux de l'avoir avec nous parce que c'est une femme qui est fascinante, en
ah,
fait.
Ah oui?
Ah oui, oui, oui. Oui.
En quelques beaucoup, mots, parce qu'elle est auteure, elle est journaliste, elle est chroniqueuse, elle est...
Elle est également... je cherche mes mots. C'est ça, chroniqueuse.
Oui, mais c'est ça, c'est une femme à qui... C'est une touche à tout et toujours dans le domaine de l'écriture. C'est une femme de mots, hein, c'est une femme de verbes, hein, c'est ça.
Absolument. Et quel verbe.
Et quel verbe.
Bon. Quel verbe. On va vous parler de « Va chercher l'insolite destin » de Julia Verdi, mm-hmm, qui est son dernier roman. C'est un roman délectable, succulent. J'ai vraiment adoré ce roman à la lecture et à la relecture. Je vous dis un petit peu sur l'histoire, mais en fait, Julia Verdi, qui a 37 ans, qui est une professionnelle accomplie. Par contre, dans sa vie personnelle, bien qu'elle soit intelligente, cultivée, belle et vraiment qui a une réussite professionnelle.
Elle est tout pour elle, quoi, de part. On l'haït à cause de ça.
on pourrait effectivement l'haïr à cause de ça, mais assez vite.
Oui.
Elle va souper avec son amoureux qui, à la fin de ce souper-là, décide de la quitter sur le trottoir en disant « Ah, nous deux, ça ne va pas marcher.
» Bon, ça c'est alors, le préambule.
Oui. C'est ainsi que ça commence. Et cette chère Julia, qui a lu moult livres de psychopop, hein, ou dans tous ces livres-là, on lui répète qu'elle méritait le meilleur, elle est un peu frustrée parce qu'elle n'obtient pas le meilleur, selon elle. Elle est en maudit après l'univers, après le destin, parce que c'est la faute du destin si ses relations amoureuses ne fonctionnent pas. Elle ne se remet pas en question une seconde, là. Elle ne se rend pas compte qu'elle s'accroche aux hommes qui, eux, finissent par la rejeter. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la passion. Hein? Mm-hmm. Dans une relation amoureuse, plus tu t'accroches à l'autre, plus il se pousse, plus il se pousse, plus tu t'accroches. Et bien évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc, cette belle Julia-là, par un soir de novembre, trouve un chien attaché dans un lampadaire, sur un lampadaire, pardon, dans sa ruelle.
On arrive au titre, hein, parce que je me disais pourquoi va chercher, c'est comme va chercher la babale, ben c'est ça.
Oui, Bon. Tout à fait, c'est que elle trouve une petite chienne qui est abandonnée et qui gèle, donc ne pouvant la laisser là. Elle l'amène chez elle avec aucune intention de la garder, par contre. Hein. Mm-hmm. Mais c'est pas si simple que ça pour trouver quelqu'un pour l'adopter. Mm. Et à travers cette chienne-là, ben, elle va tranquillement prendre conscience de ses propres comportements et commencer peut-être à modifier sa vie.
Mm. Le rapport est évident, hein? L'espèce de métaphore entre l'abandon chez l'une comme chez l'autre, finalement. Quoi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis elle va se voir aussi dans certains comportements que la petite canine a. Donc, ça va être vraiment une belle aventure pour les deux, en fait.
Ouais.
Et les personnages dans ce roman-là sont magnifiques, Julia. On l'adore parce que, d'une certaine façon, on a tous été un peu cette Julia-là dans notre vie, à un degré ou à un autre.
Là, si vous voyez la tête des deux filles autour de moi qui font tout ça avec les yeux, qui opinent du chef, oh oui! Et je sais que chez les auditeurs, en ce moment, c'est pareil. Il y en a pas mal qui doivent penser la même chose.
Ah oui, tout à fait. En fait, puis, je vous dirais, la façon dont c'est écrit ici, on ne peut que l'aimer, cette Julia-là. Bon, elle est cultivée, mais pas dans un style dans ta face, mais dans un style très agréable. Le ton est vif, parfois incisif.
Avez-vous un petit extrait pour nous, Yannick?
Oui, bien sûr. Alors, en amour, c'est pareil, je ne prends pas de risques. Je ne choisis que des garçons qui ont du potentiel. En théorie, ils ont tout ce qu'il faut, des diplômes, de l'ambition, une belle gueule et juste assez de désir pour me convaincre que cette fois, ça vaut la peine. Ils me déçoivent à tout coup, s'enfuyant à toutes jambes devant le beau piédestal auquel ils pourraient accéder si seulement ils voulaient bien m'écouter. Ils sont sourds, les tympans sans doute déchirés par toutes les folles qui sont passées avant moi. Des saboteurs de bonheur, voilà ce qu'ils sont, me répète la voix dans ma tête. La voix douce, ferme, apaisante. Elle a des intonations de miel et d'épices et elle insiste pour me dire que je suis une fille merveilleuse qui mérite le meilleur et qui jamais ne doit faire de compromis sur ses désirs. Mmh. Il m'arrive de penser que c'est Oprah qui laisse des messages à mon inconscient. En cas de faiblesse passagère, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton pour les réécouter à volonté jusqu'à ce que ma détermination soit de nouveau sans faille.
Délicieux, délicieux en effet. Yannick, on va rappeler le titre du livre « Va chercher l'insolite destin » de Julia Verdi. C'est signé Geneviève Lefebvre, qui j'espère sera d'ailleurs avec vous de la toute première émission des Livres plein les oreilles que nous présenterons le 6 septembre prochain. Merci beaucoup Yannick.
Au plaisir.
Bye.
Bye.
Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday will
I'll be through.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You
sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. That'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day.
Buddy Holly, that'll be the day.
Oh yeah. Alors, est-ce qu'on aurait encore des petites nouvelles à donner
oui, bien sûr.
À cette foule qui nous écoute?
Tout à l'heure, je vous ai envoyé faire du vélo au parc René Lévesque à la Chine. Là, je vous envoie au Rapide de la Salle.
Oui.
Le parc des Rapides. Les Rapides sont les Rapides de la Chine. Un jour, je vous raconterai ça dans mes chroniques toponymiques.
Oui, parce que j'ai jamais compris grand-chose.
Je vous démêlerai ça.
D'accord.
Mais là, en fin de semaine, c'est le festival de planche à pagaie, qu'on appelle en anglais une stand-up paddle ou SUP. Et il y a moyen d'aller essayer ça, même si on a une limitation fonctionnelle.
Oh.
Donc, il y a des moyens de l'essayer, autant pour les personnes qui ont un handicap moteur. Ils ont instauré une façon de faire qui permet d'en faire en fauteuil roulant.
Wow.
Si la personne a ses membres supérieurs mobiles, elle peut le faire seule, sinon elle peut être accompagnée. Il y a aussi moyen d'en faire si on a une déficience visuelle, et il y a même moyen d'en faire si on a une déficience intellectuelle, en étant bien encadré, parce que parfois, bon, il peut y avoir des cas où on panique plus facilement, tout ça. Alors, j'ai pris ça dans un article de la Presse Plus de Samuel Larochelle, que
wow.
Vous pouvez reconsulter pour en savoir davantage.
Mais c'est fantastique, ça. Donc, j'imagine qu'il faut s'inscrire. Mais enfin, si on retrouve l'article, on peut...
Oui, c'est ça. Donc, c'est les organisateurs du Montréal SUPFest.
Merci beaucoup, 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 Christiane Campagna. Et puis, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Rapidement, je vous rappelle que cette musique est signée Christine Tassan et Les Imposteurs. Allez les voir si à un moment donné, vous voyez leurs photos sur une affiche. Ici Clotilde Say et Christine Campagna qui vous souhaitent une belle fin de journée. Salut.